Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous écoutez le programme de Studio Tamani, il est à 18h en temps universel, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir. Voici les informations. Les autorités de la transition envisagent de négocier avec le leader terroriste Iyad Agagali et Amadou Koumfa. Cette décision est diversement accueillie par la classe politique malienne. Pendant que certains se disent optimistes, d'autres voient une violation de nos valeurs et principes. Le coût d'une parcelle en hausse à Bafoulabé, dans cette localité située dans la région de Kaï, le terrain de construction est passé de 20 000 à 300 000 francs CFA. Qu'est-ce qui explique cette montée? Le point avec nos envoyés spéciaux de retour de Bafoulabé. 8 films du Centre national de cinématographie du Mali sont en compétition au FESPACO 2021 à Ouagadougou. Néanmoins, les responsables du CNCM affirment faire face à des difficultés, notamment liées aux crises sécuritaires et sanitaires. Le développement dans un instant avec Imran Akilomaïka. Les autorités de la transition ont annoncé leur volonté de négocier avec les djihadistes, notamment Iyad Agagali et Amadou Koumfa. C'est le haut conseiller islamique du Mali qui a été mandé ouvrir des discussions avec ses chefs djihadistes. Cette nouvelle est diversement appréciée au sein de la classe politique. Si certains encouragent l'initiative, d'autres pensent qu'un dialogue avec les djihadistes porterait un coup à certaines valeurs du pays. Fatih Attara nous donne les détails.
Le Parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, pense que les négociations sont pour le moment la seule issue pour la paix. Alassane Abba est le secrétaire général de la CODEM.
C'est une très bonne décision parce que le rapport de force n'est pas aujourd'hui à notre faveur. Si l'État ne négocie pas, c'est à quoi on va assister, c'est que les populations elles-mêmes vont prendre à charge ces négociations et vont négocier selon les cas avec ceux qui occupent le terrain. Donc mieux vaut négocier de façon globale une paix que de négocier des paix.
Pourtant, certains partis politiques mettre des réserves sur cette option de négocier avec les djihadistes. Ils craignent que celle-ci n'aboutisse à l'application pure et simple de la charia. Docteur Aminatou Touré, vice-présidente du parti MODEC, Mouvement pour un destin commun.
On ne doit pas l'accepter. Nous sommes dans un pays laïque. Jusqu'à preuve du contraire, la constitution dit que le Mali est un pays laïque. Et qui dit pays laïque ne peut pas parler d'ingérence religieuse. À mon humble avis, on doit laisser la charia à côté. Je ne pense pas qu'il faut mêler gouvernance et religion.
Les observateurs estiment aussi qu'il faut tracer des lignes rouges à ne pas franchir, malgré les besoins pressants de faire la paix. Boubacar Bokoum, politologue.
Nous ne savons pas exactement qu'est-ce que ce groupe demande en réalité. Donc que l'État se mette dans une posture républicaine. Donc ça veut dire que le Mali, en aucune façon, ne pourra être un pays islamique.
Le dialogue national inclusif, tenu en décembre 2019, a recommandé l'ouverture des négociations avec les djihadistes maliens. Mais cette recommandation n'a jamais été mise en œuvre par l'ancien régime.
Le dialogue avec les groupes djihadistes maliens est certes une recommandation du dialogue national inclusif de 2019, mais cependant la nécessité de ces négociations, les concessions envisageables et le contenu d'un possible divise aujourd'hui les Maliens. Si certains estiment que ce dialogue pourrait apporter la paix, d'autres croient que c'est un piège car il n'y a rien de négociable avec les groupes djihadistes. Écoutons les réactions recueillies par Mohamed Ali Agaleida.
D'un côté, c'est une bonne chose. En cas d'échec, c'est encore plus pire.
Ceux qui sont des Maliens, on peut discuter avec eux. Mais ceux qui ne sont pas des Maliens, on ne discute pas avec eux.
On ne doit pas discuter avec les djihadistes. C'est une faiblesse. On doit les mater.
On n'est pas du tout d'accord avec la discussion avec les djihadistes. Parce qu'on est un pays libre, on veut vivre libre.
Si l'accord d'Alger n'a pas emporté la paix, discuter avec les djihadistes n'emportera pas la paix.
Il faut explorer toutes les voies qui puissent ramener la paix.
Je ne suis pas d'accord avec la négociation des djihadistes. Là où on est maintenant, on est fatigué.
Les djihadistes, quand ils viennent ici, ils nous empêchent de porter nos habits comme on veut, ils nous empêchent de partir aux boîtes, ils nous empêchent de vivre normalement comme on veut. Quoi.
Le caractère laïque du pays, il ne faut pas négocier sur ce point-là. Ce point doit être un point non discutable en réalité.
Négociation zéro, on doit les mater très bien.
Nous, les jeunes, on veut faire notre vie ici.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les négociations n'ont toujours pas repris entre les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 et le gouvernement. Et c'est là, malgré qu'il ne reste que 2 semaines pour la rentrée de classe 2021-2022 prévue pour le 1er novembre prochain. Les responsables du département disent entamer des démarches pour commencer le dialogue avec les enseignants grévistes. Moussa Mali Sissoko.
Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on affiche une volonté de renouer le dialogue avec les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre pour une sortie de crise, affirme le secrétaire général du département. Kinan Aggadeda estime que les négociations avec les enseignants grévistes devront reprendre incessamment sous la houlette du ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Il rassure aussi que la rentrée scolaire aura lieu à la date indiquée sur l'ensemble du territoire national. De leur côté, les enseignants grévistes dénoncent la lenteur dans les démarches du gouvernement à reprendre les négociations. Ousmane Almoudou, porte-parole des syndicats des enseignants signataires, est formel sur la question. Les discussions devaient porter sur l'application de l'article 39, sans quoi les enseignants ne participeront pas. Il insiste sur le respect de la loi portant statut du personnel enseignant. En attendant un accord entre les deux parties, les élèves et leurs parents sont entre espoir et inquiétude sur la situation scolaire 2021-2022.
Des habitants de la ville de Bafoulabé dénoncent la cherté de parcelles à usage d'habitation ainsi que l'attribution du titre foncier. Selon eux, le coût d'un terrain varie entre 300 000 à 500 000 francs CFA, alors qu'il a été cédé en 1999 à 20 000 francs CFA. Pourtant, le chef du village de Bafoulabé estime que la ville n'est confrontée à aucun litige foncier. Cependant, il reconnaît l'existence de certains liés aux parcelles héritées des ancêtres. Suivant ce reportage réalisé à Bafoulabé, avec la voix de Arkia Touré.
Les terrains vides sont aujourd'hui inaccessibles aux populations du Bafoulabé, regrettent des habitants de la localité. À ces difficultés s'ajoute l'attribution illégale des fonciers, dénonce-t-il.
Dans la ville, ça varie entre 300 000 francs, 250 000 francs, parfois jusqu'à 400 000 francs parfois. En 1999, c'était 20 000 francs.
Bafoulabé, c'est une zone, les gens ne payaient pas les parcelles avec les TF, les titres fonciers. Les gens, c'était la vente simple, soit avec la mairie, soit avec les propriétaires. Mais on a constaté ces derniers temps que les ventes qui arrivent là, dont il faut forcément les titres fonciers.
Cette cherté serait liée à la surpopulation de la ville de Bafoulabé, explique le chef de village. Toutefois, il indique qu'aucun litige foncier n'a été traduit pour le moment devant la justice. Kaba Diallo, chef de village de Bafoulabé.
Auparavant, Bafoulabé n'était pas grand. Si vous avez 2 ou 3 hectares, si la mairie a besoin de ça, avant de passer par le propriétaire du sol, passe par le chef de village pour demander le chef de village. Est-ce que ce terrain-là, c'est pour telle personne? Si le serviteur confirme, en ce moment, il discute avec le propriétaire du terrain. Il faut le morcellement. Mais je n'ai jamais vu au niveau de Bafoulabé une personne ou des personnes qui se sont tremblées au niveau de la justice pour le problème de foncier.
En attendant la diminution des prix des parcelles d'habitation, les populations de Bafoulabé prennent leur mal en patience.
Le Centre national de cinématographie du Mali produit des films qui sont présentés au Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Cependant, le CNCM rencontre quelques difficultés financières liées aux crises sanitaires et crises sécuritaires et sanitaires qui sévissent dans le pays, affirme ses responsables. Malgré ces difficultés, il a au total 8 films en compétition au FESPACO 2021. Tous sont des productions de jeunes cinéastes et réalisateurs. Des précisions avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Assetou Kanté.
La situation sécuritaire tendue et la maladie à coronavirus ont plongé le monde de la culture et du cinéma dans un chaos, regrettent les acteurs du secteur. Pour le FESPACO 2021, le Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM, s'est rabattu sur la jeunesse dans la production et réalisation de films. Siedou Koné est le chef de département scénario au CNCM. Il salue l'engagement des jeunes cinéastes maliens.
Le Mali est là tous les 2 ans. Les films produits par le centre, il y a quelques films d'école qui sont retenus. Mais il y a d'autres films faits par des jeunes du conservatoire, d'autres jeunes qui ne sont pas affiliés au conservatoire.
Gaussou Tangara est l'un des jeunes cinéastes maliens qui participent au FESPACO 2021. Son film Le Chant de Zonzaniba est dans la catégorie de films d'animation.
Participer à ce genre de festival-là ne peut que renforcer en tout cas notre jeune expérience en termes de cinéma. Ce serait ma 2e participation parce qu'en 2017, j'avais envoyé un premier film d'animation, toujours dans le même concept. En 2019, j'étais retenu dans la sélection fiction court-métrage et cette année, je suis en compétition officielle.
Cependant, les doyens indiquent que les jeunes ont encore du chemin à faire dans le monde cinématographique. De Ouagadougou, Assetou Kanté pour Studio Tamani.
Il faut une formation de qualité pour appuyer le jeune cinéaste malien. C'est ce que recommande l'actrice et réalisatrice Fatoumata Koulibaly du TFC. Pour la doyenne du talent, le Mali n'en manque pas. Ses talents ont juste besoin d'être accompagnés financièrement, affirme-t-elle. Fatoumata Koulibaly du TFC est au micro de notre envoyé spécial au FESPACO à Setou Kanté.
Les anciens en ont fait de leur mieux. Nous aussi, on est en train de se battre toujours dedans. Et la jeunesse est en train de prendre la relève puisque nous avons 8 films en compétition.
Qu'est-ce qu'il faut pour appuyer cette jeunesse?
Non seulement la formation, il y a des formations par-ci, par-là. Moi-même, avec M. Sey et les autres doyens, on a créé une structure, une association qui forme les jeunes dans les métiers du cinéma qui s'appelle Donatao. Donc, tant qu'on n'a pas de moyens aussi, on ne peut pas former. Nous essayons de former les jeunes dans le métier du cinéma, le conservatoire et puis d'autres à côté. Appui financier et logistique aux jeunes. Sinon, ils ont la tête sur les épaules. Ces jeunes bossent beaucoup. Ils aiment ça.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité en région nous conduit à Kita où se prépare le concours d'entrée à l'Institut de formation des maîtres IFM. Près d'une centaine d'élèves suivent des cours de mise à niveau depuis plus d'une semaine à Kita. Les cours prennent en compte les différentes matières, notamment le français, l'anglais, la mathématique, la physique-chimie, l'histoire et géographie. L'activité est initiée par un groupe de professeurs à l'IFM de Kita. L'objectif est d'aider les élèves du niveau DF et BAC à bien affronter le concours d'entrée dans les IFM. À présent, nous recevons Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Quel est le thème choisi pour ce soir?
Négociation avec les djihadistes, à quoi faut-il s'attendre? C'est le thème central de notre Grand Dialogue de ce soir, Imirana Kilou Maïga. Pour en parler, nos invités sont Baba Dakono, spécialiste des questions sécuritaires, Boubacar Boukoum, analyste politique, Dr Ali Tunkara, spécialiste des questions sécuritaires.
Merci, bon débat. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Imirana Kilomega à la mise en œuvre de Mamadou Ouattara. L'Agence nationale de la sécurité d'État, ANCE, a été créée en remplaçant de la Direction générale de la sécurité d'État par le gouvernement. Ce changement avait été souhaité depuis un moment, nous explique Boubacar Salif Traoré, expert en sécurité. Selon le directeur du cabinet Afrique Globe et conseiller spécialisé sur les questions de défense et de développement de l'espace G5 Sahel, cette volonté est due aux nouvelles menaces qui apparaissent. La création de cette nouvelle agence permettra, selon lui, de renforcer davantage la sécurité de l'État et lutter contre le terrorisme. Boubacar Salif Traoré, directeur de cabinet Afrique Globe, conseiller spécialisé sur les questions de défense et de développement dans l'espace G5 Sahel, est au micro de Ousmane Yalibouli.
L'ancienne sécurité d'État qui a été créée sous le président Moussa Traoré n'a pas été créée à la même période que cette période actuelle que nous connaissons avec l'émergence des nouvelles menaces. Donc il fallait coûte que coûte relancer une certaine dynamique pour adapter le travail justement de renseignement aux nouvelles menaces qui apparaissent.
Donc quelles sont les attributions et les objectifs de cette nouvelle agence?
Bon, les attributions de la nouvelle agence, c'est d'abord sécuriser l'État dans toute sa dimension, ensuite mettre en place une coopération active en matière de renseignement entre les différentes unités, protéger la population et lutter efficacement contre le fait terroriste.
Quel est l'objectif recherché à travers ce changement?
L'objectif recherché, c'est vraiment mettre en place une posture de prévention. On a estimé que depuis un certain temps, on subit un certain nombre de phénomènes, notamment les attaques, notamment la déstabilisation de certaines structures. Donc, à l'avenir, il va falloir réfléchir en prospective pour pouvoir agir rapidement avant que ça ne tourne au désastre.
Est-ce que ce changement permettra aux services d'être plus performants dans la lutte contre l'insécurité?
Depuis un certain moment, il y a des critiques qui avaient été formulées en direction des forces de défense et de sécurité qui seraient des forces de protection d'un régime et pas forcément des forces de protection de la nation. Donc, en évoluant dans le renseignement, l'objectif, c'est qu'on puisse aussi permettre aux forces de défense et de sécurité de faire leur mieux en essayant de devenir, en tout cas, des forces de défense et de sécurité au service de la nation.
Que faut-il faire pour rendre efficace un service de renseignement dans le contexte de lutte contre le terrorisme?
La première action à mettre en place, c'est de valoriser le renseignement d'origine humaine. L'objectif de ce renseignement d'origine humaine, c'est vraiment de permettre qu'il y ait une collaboration et une coopération active entre la population locale et la force de défense et de sécurité, et surtout les agents de renseignement. Cela passe par l'activation de plusieurs structures étatiques qui va permettre à ce que la population retrouve cette confiance en direction de l'État. Et à partir de l'installation d'un climat de confiance, la population peut déterminer et mettre au service des forces de défense et de sécurité des renseignements utiles. Et
est-ce que des mesures sont prises pour accompagner ces services?
Bien sûr, les mesures sont prises parce que c'est un service qui est directement rattaché à la présidence de la République et donc, bien évidemment, la présidence de la République mettra les moyens qu'il faut dans la limite des capacités de l'État.